Merci beaucoup, Moïse. Merci à tout le monde. Et nous rendons grâce à Dieu pour son accueil. Il nous accueille à sa table afin que nous puissions dîner avec lui, déjeuner avec lui à travers sa parole. Et j'aimerais aussi dire merci pour les témoignages et tout le temps que nous avons pris pour rendre grâce à Dieu à travers les prières et aussi à travers ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ce matin, j'aimerais nous inviter à lire Exode 13, versets 20 à 22, pour simplement nous rappeler que Christ nous précède. Notre Seigneur, notre Dieu nous précède dans nos vies, nous précède dans nos projets, nous précède dans notre Église en toutes circonstances. Et en lisant ce texte, nous allons essayer de voir le texte qui est dans Exode 13, versets 20 à 22. On va lire et après, on pourra essayer de tirer quelques exhortations pour notre culte ce matin. Christ nous précède, Exode 13, versets 20 à 22. Lisons. Les Israélites quittèrent Succoth et allèrent installer leur camp à Étham, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait le jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit, la colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, ne cessèrent jamais de les précéder. En lisant ces textes, vraiment, nous pouvons être réconfortés. Nous pouvons déjà, même sans dire un mot, voir comment notre Dieu est bon et comment notre Dieu est avec nous et comment il veille sur nous, sur chacun de nous. J'aimerais vous donner une anecdote par rapport à personnel concernant au début de ma relation avec Isabelle. Et j'ai l'habitude de rester derrière et de la mettre devant. Et à cause de cette façon de marcher, elle m'a dit non, 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 c'est pas comme ça on fait. Normalement, on doit marcher côte à côte. Et on était obligé de s'expliquer. Et je lui ai demandé pourquoi je ne dois pas te mettre devant. Et elle m'a expliqué, non, cela ne fait pas, si on met quelqu'un devant en tant que couple, ça veut dire que en fait, il y a un décalage, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas d'égalité. Et elle m'a demandé pourquoi aussi toi tu voudrais que moi je sois devant pour que tu sois derrière. Et je lui ai expliqué que dans ma culture, mettre quelqu'un devant, une personne devant et rester derrière, c'est un signe de protection. Ça veut dire que je veille sur toi et personne ne peut passer par derrière pour t'atteindre et celui qui est devant toi aussi. Je peux être vigilant et savoir la personne qui est devant pour te protéger. C'est un signe de protection. Et là, on s'est finalement compris d'une manière banale, parce que pour moi, dans mon attitude, c'est une façon de protéger. Et pour elle, ce qu'elle voulait, c'est être côte à côte, l'égalité. Nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Ou en matière de vie commune. Et là, on voit ici que Dieu se met devant afin de veiller sur son peuple. Dieu, en Jésus-Christ, nous précède dans notre vie, nous précède dans notre vie d'église, dans nos projets et dans tout ce que nous faisons, le Seigneur est devant nous et nous précède.
Abdou,
Oui.
Il y a une bande noire sur ton écran. Quand tu
Ah.
projettes, on voit pas tout le texte.
Ah,
Une bande
désolé
noire.
parce que en fait, j'ai pris un mon abonnement Office est terminé. Peut-être c'est ça qui crée cette difficulté-là. Mais je vais repartir voir si ça va donner ou pas. Sinon,
D'accord.
on fera
Ouais,
comme ça.
ça masque
Une
une
partie
partie de
ouais.
l'écran.
OK, ça
Une
masque tout
partie
l'écran.
du texte. Ouais.
OK.
Ah non, c'est bon, tout.
C'est bon?
Là, c'est
Ouais,
bon, c'est
c'est bon.
bon.
Vous voyez tous les textes?
Oui.
D'accord. OK. Donc, nous sommes à l'introduction, l'anecdote, et ensuite, nous allons maintenant essayer d'introduire et surtout en prenant le mot précédé. Précédé, selon le grec, le mot précédé veut dire suivre celui qui précède, se joindre à la suite. Ça veut dire accompagner. Et aussi, il prend l'exemple des disciples qui doivent suivre Jésus. Donc, Jésus est devant et les disciples sont appelés à suivre Jésus et ils nous précèdent afin que nous puissions savoir là où il va et savoir comment nous devons le suivre. Et nous voyons que dans les textes bibliques, en Matthieu particulièrement, on voit Pierre qui abandonne le filet pour suivre Jésus en voyant Jésus le précéder. Nous voyons après Pierre qui laisse la barque pour suivre Jésus en voyant Jésus le précéder. Et aussi, enfin, on voit Pierre qui laisse ses parents, son père, sa mère, sa famille pour suivre Jésus et en voyant toujours Jésus le précéder. Et cela nous interpelle parce que souvent, suivre Jésus ou Jésus nous précéder, c'est quelque chose qui est important dans toute notre vie, en toutes circonstances, en toute situation. Et savoir que Dieu, notre Père, est devant nous et notre Seigneur est devant nous. Parce que nous sommes limités dans le temps. Nous ne savons que aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, mais demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous ne savons pas effectivement ce qui va se passer. Donc, Dieu nous précède dans le temps et dans l'espace afin de conduire toutes choses pour nous permettre de glorifier et d'honorer son nom. Donc, nous voyons premièrement dans ce texte que Dieu prend soin de son peuple. Avant la sortie, Dieu manifeste pleinement sa présence en se mettant devant avec une colonne de feu et une colonne de nuée, ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu, sa présence visible pour permettre au peuple d'être conduit jusqu'au bout, jusqu'à bonne destination. En plus d'être présent visiblement pour le peuple, Dieu prend soin d'équiper son peuple. Il prend soin de permettre que son peuple puisse avoir cette possibilité d'être affermi en lui, d'être préparé et pour pouvoir affronter peut-être les épreuves, les difficultés qui vont surgir devant eux. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur fait avec nous. Il nous prépare, il ne va pas nous laisser comme ça, d'une manière sans nous préparer afin de pouvoir tenir dans la marche. Et nous pouvons dire, constater et dire clairement que les épreuves sont une forme de préparation. Si le Seigneur permet que les épreuves nous arrivent, que certaines choses nous arrivent, c'est parce que simplement le Seigneur veut que nous soyons équipés. Nous ne pouvons pas être équipés autrement. L'équipement que Dieu va nous permettre de vivre avec, c'est de pouvoir transformer notre vie intérieure. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et troisièmement, au niveau de l'introduction, Dieu manifeste sa présence permanente. Et ici, à la fin du verset, il est dit que la colonne de feu pendant la nuit ne cessait jamais de les précéder. La colonne de feu, la colonne de fumée ne cessait jamais de les précéder. Et quelle grâce de savoir que le Seigneur ne cesse jamais, jamais de nous précéder et de nous éclairer, quelles que soient les circonstances et les temps que nous traversons. Dieu a choisi de conduire son peuple par la meilleure voie. En regardant, en lisant ce texte, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi il y a un chemin direct, le plus court, et le Seigneur décide de prendre un chemin peut-être plus long, peut-être plus périlleux? Cela me touche énormément. Le Seigneur voit le chemin le plus court, il voit le chemin le plus simple, mais accepte que son peuple puisse passer par des chemins contournés, des chemins qui passent par des ravins, des chemins qui passent par des épines, afin de modeler son peuple, afin de permettre que son peuple puisse vivre une réelle formation, afin de les amener vers la terre promise. Aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple du GPS. Vous prenez votre GPS, vous calculez, vous dites évitez les autoroutes, évitez les routes départementales, évitez les routes nationales et simplement d'aller dans les ravins, dans les chemins les plus difficiles. Je pense que personne ne voudra ça. Si vous prenez votre GPS pour programmer votre voyage, vous allez surtout dire aller sur les autoroutes, c'est plus simple parce que là-bas on a une grande vitesse et il y a pas trop de bouchons, il y a pas trop de difficultés. Nous voyons dans le psaume 107 verset 7 que Dieu vraiment prend soin de son peuple. Que Dieu veut que son peuple puisse véritablement être conduit. C'est lui qui conduit son peuple. Et il veut que son peuple soit conduit sur la meilleure voie. Ce n'est pas la voie la plus simple que Dieu choisit. Ce n'est pas la voie la plus courte, le plus court chemin que Dieu choisit. Dieu choisit la meilleure voie pour nous. Il connaît ce qui est meilleur pour son Église. Il connaît ce qui est meilleur pour nos vies, pour nos familles. Et si le Seigneur choisit de prendre un chemin pour nous, pour notre vie, pour notre famille, pour notre Église, il faut simplement acquiescer et dire merci Seigneur. Merci Seigneur de permettre que nous puissions prendre ce chemin-là. Parce que tu veux, c'est le chemin que tu nous ordonnes de prendre, nous savons que c'est la meilleure pour nous. Le chemin le plus court peut être dangereux. Le chemin le plus, le meilleur, où il n'y a pas de difficultés, peut-être être dangereux pour nous, pour notre avenir, parce que tu sais l'avenir et tu sais comment tu veux nous amener dans cette réalité de l'espérance. Moïse a simplement donné des instructions. Nous voyons ici avec humilité, que c'est Dieu qui conduit son peuple. Personne ne peut se réclamer le conducteur du peuple de Dieu d'une manière authentique. Christ est le véritable chef et le véritable conducteur de son peuple. Moïse a simplement donné des instructions. Moïse a reçu la parole et a donné des instructions. Mais nous voyons ici, avec la colonne de feu, et la nuée de fumée, que c'est Dieu qui précède, qui fraye le chemin, qui sait là où il veut amener le peuple et qui est en train d'amener le peuple vers sa destination. L'homme ne peut concevoir ses voies, mais c'est Dieu qui dispose et qui guide les pas. Comme nous lisons dans Proverbe 16, verset 9, l'homme élabore les plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Cela est une réalité que les projets, Dieu peut nous mettre à cœur de mettre des projets en place, nous inspirer, nous stimuler pour que nous puissions voir des projets et les mettre en place, mais l'application et la réalisation dépend simplement et seulement de notre Seigneur. Nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Le Seigneur dirige nos projets et dirige son Église vers une destination qui est la meilleure et la plus sûre pour son Église et pour son peuple. Et souvent, dans le choix de conduire son peuple, souvent nous pouvons remarquer que Dieu veut nous briser pour nous utiliser. Le Seigneur, s'il laissait son peuple aller comme ça, rentrer à Canaan sans difficulté, sans rien, d'une manière facile, je pense que ça pouvait être très difficile pour eux après parce que l'orgueil va prendre la place. Nous avons une tendance orgueilleuse et d'une manière en disant, en réclamant que c'est notre pouvoir, c'est notre intelligence, c'est notre façon de faire qui a permis que cela soit abouti à cette réalité. Et Dieu prend le soin d'humilier le peuple en cours de route. Dans le désert, il va les humilier, il va les briser, enlever toutes sortes d'orgueil, de suffisance en soi, afin d'amener chacun à reconnaître que c'est lui le maître, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui dirige les choses et c'est lui qui conduit les choses pour la gloire de son nom. Vance Havner a écrit un jour en disant, Dieu utilise les choses brisées pour glorifier son nom. C'est la boîte d'albâtre brisée qui donne du parfum. C'est la terre brisée qui produit du récolte. Ce sont les nuages brisés qui donnent la pluie. C'est le grain brisé qui donne le pain. Et c'est du pain brisé qui donne de la force. Dieu utilise les choses brisées. Et souvent, Dieu utilise les hommes brisés. Si le Seigneur voit que l'orgueil veut nous emporter, le Seigneur prendra soin de nous briser, afin, pas pour nous écraser, mais nous briser et nous amener à l'humilité, à reconnaître sa seigneurie, sa gloire, sa puissance. Et c'est lui qui est et qui doit en tirer gloire et honneur dans notre vie et dans ce que nous faisons à sa gloire. Paul aussi nous rappelle à Éphésiens 2 que Dieu a préparé d'avance les choses que nous devons mettre en pratique et appliquer. Son œuvre, Dieu nous a appelés à son œuvre créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous marchions en elles. Éphésiens 2, verset 10. Dieu a des projets déjà préparés. Simplement, il nous invite à marcher dans ses projets, dans ses voies et dans la façon dont il veut conduire son peuple. Dieu prépare Israël en l'éprouvant, premièrement, en l'éprouvant le peuple d'une manière en fonction de sa force. Dieu peut nous éprouver en fonction de la force. Il ne permettra pas qu'une épreuve qui dépasse notre force nous arrive. Si le Seigneur nous éprouve, La manière dont il nous éprouve, c'est parce que simplement, il sait que cette épreuve ne va pas nous écraser, nous anéantir, mais cette épreuve va nous permettre de vivre et de pouvoir être à sa ressemblance. Dieu a pris soin de conduire son peuple dans le désert. Dans le désert, nous avons vu la façon dont le peuple a été formé par la faim et Dieu a pourvu à leur repas. Par la soif, Dieu a pourvu à leur nourriture, à leur boisson. Par le soleil, Dieu a pourvu à ce qu'ils soient toujours couverts. Dieu permet que son nuage les couvre afin de les épargner du soleil, afin de permettre que le peuple soit toujours protégé et toujours gardé sous ses regards. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous protège, non seulement nous protège, mais est à la providence. Nous pouvons raconter beaucoup de choses que le Seigneur a pourvues. Quand nous sortions de la cave des nations, quelle providence le Seigneur n'a pas fait. C'était un miracle. Il y avait des obstacles en montagne. Et même Denis nous partageait hier la façon dont les colocataires ont dit « Non, il ne faut pas acheter, c'est une cave, tu ne pourras rien faire avec ça. » Et celui qui a voulu acheter la cave a dit « Oui, je sais que c'est une cave. » Mais ils étaient là depuis 1967, ils étaient là en cave. Donc je vois et j'agis en fonction de ce que je vois. Je vois, nous pouvons voir ici les signes de la providence de Dieu. La manière dont nous sommes arrivés aussi à Montreuil, dans les locaux de Montreuil, c'est une providence. Le Seigneur a pourvu toujours à son Église, au bien de son Église. Soyons rassurés que le Seigneur est au contrôle dans les manettes. Les manettes sont dans ses mains et c'est lui qui dirige, c'est lui qui pourvoit. Rien ne nous manquera parce que Dieu assure toujours son peuple dès leur sortie et dès leur arrivée. Mais sachons que ne craignons pas d'être brisés, ne craignons pas d'être humiliés, ne craignons pas parce que c'est la façon dont Dieu utilise aussi pour amener son peuple à l'humilité, pour amener son peuple à l'obéissance, pour amener son peuple à prendre les voies dont il veut que son peuple prenne. Si nous écartons ses voies, il va nous ramener sur ses voies. Si nous refusons d'avancer, il va faire de telle sorte que nous avancions. Si nous avons peur, il va venir nous encourager aussi. Ésaïe 40, versets 3 à 5, il dit « J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez les chemins au Seigneur dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu, qu'on relève les niveaux des vallées, qu'on abaisse les montagnes et les collines, qu'on change les reliefs en plaine et que les hauteurs en large vallée. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde le verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Notre Seigneur est là et il va révéler sa gloire et sa présence dans notre vie et aussi dans la vie de notre communauté. Dieu prépare Israël en l'éprouvant, en lui donnant la possibilité d'être sur ses voies, de demeurer sur ses voies. Le Seigneur nous précède. Le psaume 118, verset 105 et Jean 8, verset 12 nous éclaire sur comment le Seigneur préside et précède son Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour guider ceux qui cherchent premièrement le règne, la justice et la gloire de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Dans le désert avec le peuple d'Israël, le Shekinah était dans la nuée et la colonne de feu. Et ce Shekinah a pris chair et a habité avec nous et en nous aujourd'hui. Le Seigneur habite en nous et va nous conduire et va nous donner sa grâce de pouvoir manifester sa gloire. Le Saint-Esprit conduit et guide ceux qui cherchent premièrement son règne, sa justice et sa gloire. C'est vraiment une satisfaction pour nous de savoir que nous sommes conduits par Dieu. Quelle joie, quelle paix de savoir, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, tu nous conduis. Tu ne nous laisses pas errer ça et là sans ressources. Tu es là à côté de nous et en nous. Et tu nous ramènes chaque fois quand nous avons besoin de reprendre le chemin dont tu veux que nous prenions. Dieu guide par son affection, sa providence, en précédant toujours son peuple. Le Seigneur nous précède non seulement d'une manière visible, mais aussi il nous aime. Nous voyons son amour se manifester au moment voulu. Nous voyons sa grâce se manifester au moment voulu. Nous voyons sa providence se manifester au moment voulu. Psaume 118, verset 118 nous dit, verset 105 dans d'autres, 19, verset 105 dans d'autres versions, « La parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » C'est par la parole que Dieu nous conduit aujourd'hui. C'est par son esprit et aussi par sa parole qu'il nous conduit aujourd'hui afin que nous puissions discerner ce qui est de sa volonté et appliquer dans nos vies. Christ est avec nous dans nos déserts spirituels. Il dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous. Sachez que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Souvent dans nos épreuves, c'est facile de dire, de croire que Dieu, peut-être il m'a abandonné. Dans cette situation, je ne vois pas comment sa présence se manifeste. Mais j'aimerais ce matin nous rassurer que le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans nos déserts, le Seigneur sait quand nous traversons des déserts spirituels, au moment où rien ne semble être possible. Tout est d'une manière sombre. Le Seigneur veut nous rassurer que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous pour traverser ce vallée. Il est avec nous dans notre vieillesse aussi. Si nous pensons que nous sommes avancés en âge ou telle raison, le Seigneur n'abandonne jamais. Et David peut le dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai avancé en âge, mais je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner le juste, celui que j'ai appelé, celui que j'ai sauvé. Le Seigneur est avec nous même dans l'âge où nous sommes, nous pensons que maintenant tout commence à ralentir. Le Seigneur est toujours avec nous. Le Christ nous précède dans la nuée, c'était devant le peuple d'Israël. Le Christ précédait le peuple d'Israël dans la nuée. Aujourd'hui, nous pouvons voir que c'est le Christ lui-même qui précédait son peuple malgré le désert ou la compréhension de la colonne de feu ou de la nuée. C'est le Christ lui-même qui précédait son peuple comme l'ange de l'Éternel qui montrait le peuple le chemin, la façon dont ils doivent marcher. Le Christ conduit et protège son Église spécialement dans ce monde. Aujourd'hui, dans notre monde, troublé dans notre monde difficile avec beaucoup de défis, nous pouvons nous poser la question, est-ce que réellement, comment l'Église va aller dans les jours, dans les années à venir? Comment l'Église va être dans les années à venir? Comment notre Église sera-t-elle? Est-ce que? Mais laissez-moi vous dire que le Christ conduit son Église même dans les moments difficiles, les moments les plus sombres de l'histoire de l'Église. Nous l'avons vu dans l'histoire de l'Église, comment Dieu, par Jésus-Christ, par son Esprit, a fait sortir son Église toujours des temps difficiles, des temps sombres. Le Christ conduit et protège son Église spécialement dans notre temps du COVID, dans notre temps où la loi 1905 va être modifiée. Sachons que le Seigneur est au contrôle et protège son Église et il défendra totalement son Église contre tous les assauts de l'ennemi et ses œuvres. Nous voyons dans ce texte, nous pouvons conclure en rappelant tout simplement les différents points concernant ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Le Seigneur prend soin de nos itinéraires. Sachons que le Seigneur prend soin de nos itinéraires personnels et aussi collectifs. Rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à sa direction. Le Seigneur assure notre départ et notre arrivée par le Saint-Esprit. Faisons-lui confiance, plaçons toute notre confiance en lui. Notre avenir ne dépend pas de nous, des circonstances et des difficultés que nous pouvons traverser. Il est au contrôle pour nous rassurer un avenir meilleur et nous faire prendre le chemin meilleur pour nous. Pas le chemin le plus court, pas le chemin que nous semblons ça, le Seigneur devait passer par là. Parce que c'est le chemin que nous pensons le plus court ou pensons que c'est le chemin le plus juste. Mais le Seigneur sait ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Il nous assure de sa protection, de sa présence dans toutes les étapes de notre vie personnelle et aussi de notre vie d'Église. Dans toutes les étapes, le Seigneur va révéler ou d'une manière faire des signes pour dire « Je suis là, je n'ai pas, vous n'êtes pas perdu ». Vous n'êtes pas à l'écart, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Même si à un moment, le GPS essaie de se reconfigurer, de chercher où nous sommes, où est la position, le Seigneur est toujours là pour nous dire, nous sommes à telle étape et nous allons aller vers telle étape. La prochaine étape, c'est telle étape ou telle étape. Faisons-lui simplement confiance. Avec le GPS de Dieu, nous ne nous trompons jamais de chemin. Il a dit, jamais la colonne de feu et la colonne de nuée n'a cessé d'accompagner et de précéder le peuple. Cela montre effectivement que le Seigneur est avec nous. Et jamais il ne va nous laisser tromper de chemin et nous perdre. Le Seigneur ne va pas laisser son Église si belle, si meilleure pour lui, parce que le Seigneur a dit son Église a du prix à ses yeux. Il a donné son sang pour son Église. Comment pensons-nous que le Seigneur va laisser son Église s'envoler comme ça, périr comme ça? Non, le Seigneur va toujours continuer à précéder et à guider son Église afin qu'elle puisse accomplir sa volonté. Jean 16, verset 13. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom. mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. J'aimerais conclure par ce verset pour nous rappeler simplement que le Saint-Esprit est dans nos vies, le Saint-Esprit est dans son Église et le Saint-Esprit est la colonne de feu et la nuée de nuages qui éclaire son peuple, qui conduit son peuple dans le Nouveau Testament, dans notre monde aujourd'hui. Que nos cœurs, nos pensées puissent être soumis au Saint-Esprit, à sa direction, à sa volonté, afin que son Église, nos vies, puissent être totalement à sa gloire et à l'honneur de son nom. Nous allons nous arrêter là et prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Tu nous rappelles tout simplement que tu nous précèdes. Nous voulons te voir devant et non derrière. Ne nous laisse pas te mettre derrière notre dos, mais permets que chacun de nous, nos frères et sœurs, dans ton Église, dans ton, parmi ton peuple, puisse te voir à l'œuvre devant. Parce que tu as préparé des choses d'avance, des projets, oui, qui relèvent, Seigneur, de ta volonté, afin que nous puissions simplement entrer dans tes projets, afin que nous puissions simplement, oui, honorer ton nom en se laissant conduire, en se laissant diriger, en se laissant totalement, oui, conduit par toi. Ne nous permet pas, Seigneur, d'être résistants à travers l'orgueil, à travers la suffisance de soi et à travers peut-être l'égoïsme et l'égocentrisme. Seigneur, brise en nous ce qui ne va pas. Brise en nous ce qui peut être obstacle à la marche. Brise en nous tout ce qui pourrait, Seigneur, nous empêcher de te voir à l'œuvre devant. De te voir, Seigneur, manifester ton Shekinah devant, afin que nous puissions rentrer, Seigneur, dans l'application, Seigneur, de tes projets pour le rayonnement de ton Église et de ta gloire. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, dans nos différences, dans nos difficultés, dans nos différentes épreuves, nous pouvons imaginer que maintenant le Seigneur est peut-être nous nous sommes trompés de chemin ou peut-être le Seigneur est à l'écart. Mais Seigneur, nous savons que tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu n'abandonnes jamais ton peuple, tu n'abandonnes jamais ton Église parce que tu as payé le prix. Tu as versé ton sang pour ton Église et tu veux voir ton Église belle, ton Église conduite, ton Église dirigée, ton Église, oui, s'épanouit pleinement. J'aimerais, éternel Dieu, te remettre, Seigneur, nos frères et sœurs qui traversent des épreuves. Nous te demandons de les relever, de les consoler, de donner, Seigneur, ta grâce afin, oui, de voir que tu es là dans leur vie. Et que tu prends soin d'eux. Comme tu as pris soin du peuple d'Israël dans le désert, dans la providence, tu les as prouvés, tu les as manifesté ton amour, ton affection et ta présence. Pourvois aux besoins de ton peuple, de tes enfants, de ton Église, afin que chaque étape de notre marche, que nous voyons d'une manière manifeste, que tu es avec nous et que jamais tu ne nous abandonnes, oui, au vouloir, au bon vouloir de nos pensées ou au bon vouloir, Seigneur, de notre propre décision. Seigneur, garde ton Église, protège ton Église, bénis ton Église et que la main de l'ennemi soit tordue à jamais et soit brisée complètement, comme, oui, les Égyptiens sont restés dans la mer, morts dans la mer, Seigneur. Oui, l'ennemi de ton Église sera totalement noyé, pleinement noyé, afin que ton Église puisse continuer à t'honorer, à t'adorer, comme le peuple d'Israël à la traversée de la mer Rouge. Oui, on prie des instruments de louange et d'adoration pour dire notre Dieu nous a délivrés de l'ennemi. Seigneur, que ton Église puisse dire, puisse continuer à t'adorer et à t'honorer aujourd'hui comme une grande délivrance. Parce que tu l'as délivré, oui, de la main de l'ennemi en mourant à la croix, en ressuscitant et en étant glorifié pour que ton Église puisse s'épanouir et accomplir ta volonté, ta mission, Seigneur, que tu l'as laissé à ton Église. Bénis ces jours et permets-nous de tourner toujours nos regards sur toi dans toutes les étapes de notre vie personnelle, familiale et aussi collective dans l'Église. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci pour ce message. Nous allons prendre